Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Alexandre Monin.
Bonjour Jean-Philippe.
Merci de venir au micro de Oser pour venir parler de vos projets et plus particulièrement de redirection écologique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un peu quelles sont vos différentes casquettes et différentes activités ?
Oui, bien sûr. Merci encore déjà pour cette invitation. Donc, je suis Alexandre Monin. Je suis philosophe de formation et d'exercice, mais souvent dans des lieux un petit peu particuliers. Je vais y revenir dans un instant. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du numérique. Alors, je travaille un petit peu toujours, hein, mais c'était mon activité principale pendant quelques temps. J'ai effectué notamment une thèse autour de l'architecture du web, thèse de philosophie donc à la Sorbonne, à Paris 1. Et en parallèle, j'ai travaillé dans le domaine des humanités numériques naissant alors en France à l'École des Chartes. J'ai travaillé aussi d'autres comme conservateur dans le monde un petit peu des bibliothèques et également pendant 3 ans à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou dirigé par Feu Bernard Stiegler, qui est un philosophe qui s'intéressait beaucoup au numérique, pas seulement, mais beaucoup aussi au numérique et aux technologies. Suite à ma soutenance de thèse, je suis parti un petit peu en Allemagne pendant quelques mois à l'université du Bauhaus. Et puis en 2014, entre 2014 et 2017, j'ai été embauché chez INRIA, donc l'institut de recherche en France qui se consacre public, qui se consacre entièrement au numérique, aux sciences du numérique. Donc j'étais le premier, je blague souvent en disant peut-être le dernier philosophe embauché par INRIA. Et c'est là que je me suis mis à travailler plutôt sur des enjeux environnementaux en m'interrogeant sur l'avenir du numérique à partir de 2015, on va dire. Mais je connaissais déjà les travaux autour de l'Anthropocène pour avoir un petit peu... Je suivais les travaux de Bruno Latour, notamment, que je mobilisais, puis j'avais eu l'occasion de le rencontrer en 2013 autour de différents projets qu'il coordonnait à l'époque. Et puis, j'ai démissionné d'INRIA en 2017. J'avais d'autres activités liées au numérique en parallèle, mais je ne vais pas forcément parler ici. J'ai rejoint à ce moment-là mon collègue et ami Diego Landivar, que j'avais rencontré en 2013, qui avait cofondé un laboratoire indépendant qui s'appelle Widgets Media Lab, qui est un laboratoire consacré, on va dire, très largement aux crises, au pluriel, écologique, et puis à l'anthropocène. Et donc, je l'ai rejoint là où il travaille, c'est-à-dire à l'école de management de Clermont-Ferrand, et aussi au sein, évidemment, de Widgets. Et puis, on a lancé plusieurs projets ensemble, y compris des formations. Et aujourd'hui, je dirige donc... formation, qui est le Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène, que nous avons créé aussi avec mon collègue Emmanuel Bonnet. J'ai des différentes casquettes, participation à différents comités scientifiques, ça et là. Et je participe aussi depuis 2017-2018 au GDS Eco-Info, le groupement de services Eco-Info, qui travaille justement depuis pas mal d'années sur les liens entre environnement et numérique.
Génial, merci pour cette introduction et cette présentation. C'est assez vaste et vous avez fait effectivement pas mal d'activités.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse principalement aux travaux du Origins Media Lab et notamment à tout le travail que vous avez fait autour du concept de redirection écologique. Est-ce que vous pourriez peut-être présenter déjà ce labo et ensuite peut-être introduire ce concept ?
Bien sûr. Origins Media Lab, donc, c'est un laboratoire de recherche indépendant qui a le statut d'une association qui se conçoit un peu comme un tiers-lieu de recherche pour accueillir différentes personnes, différents chercheurs, différentes chercheuses qui évoluent dans des disciplines très différentes. Ça peut être l'anthropologie, la philosophie, le design, mais aussi voilà, ça peut être des personnes qui travaillent comme agronomes ou autres, et de travailler toutes et tous ensemble sur les questions donc, liées à l'Anthropocène. C'est un laboratoire indépendant qui, au départ, était un projet de recherche du CNRS et de diverses universités, puis qui a pris son indépendance, qui a été cofondé par Émilie Ramilien, qui est anthropologue, et Diego Landiva, qui est économiste de formation, mais qui travaille aussi dans des champs comme l'anthropologie et d'autres champs. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que nous menons une partie de nos recherches et qu'en fait, avec Diego, donc, que j'ai rencontré, comme je l'avais indiqué, en 2013, on a commencé à collaborer sur des projets de recherche à partir de 2014-2015. Et en fait, en 2017, j'avais monté un projet de recherche à l'époque qui nous avait permis d'aller à Londres. Et c'était à Londres qu'on a eu l'idée de monter une initiative qu'on appelle l'initiative Closing Worlds, qui existe toujours et qui était un petit peu notre programme de recherche et d'action dans l'Anthropocène. Et c'est cette initiative qui a finalement, mais qui notre projet, on va dire, personnel, avec donc des caractéristiques qui ne sont pas forcément réplicables ailleurs, qui a donné lieu ensuite à l'établissement d'un commun, qui est la redirection écologique, pour permettre à d'autres finalement de s'emparer de l'approche qu'on était en train de développer, de pouvoir justement la faire leur. Ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, avec notre projet personnel. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a développé la redirection écologique. La formation que je mentionnais tout à l'heure, donc le Master of Science, Stratégie et Design pour l'Anthropocène, entre l'ESC Clermont et Strat École de Design à Lyon, c'est une formation qui forme à la redirection écologique. Et ce qu'on entend par redirection écologique, c'est tout simplement le fait qu'il fallait faire évoluer les approches qui existaient alors, on était convaincus, on l'est toujours, autour notamment, évidemment, de la croissance verte, n'en parlons pas, mais aussi du développement durable, de ce que le développement durable est devenu, mais aussi voilà, toutes les approches basées sur des paradigmes de compensation, par exemple, mais aussi la RSE, de traitement des externalités négatives, notamment des entreprises. Toutes ces approches qui, finalement, n'allaient pas forcément au fond des choses et qui restent tributaires d'un cadrage, je dirais, pour reprendre les analyses de Stéphane Aïkout, qui est un politiste, qui a publié un petit livre il y a un ou deux ans qui s'intitule « Climatiser le monde ». Des analyses où on a d'un côté, là on l'a vu avec la COP, hein, on a d'un côté des organismes dont le but est finalement de maintenir les principes de l'économie mondiale tels qu'ils existent aujourd'hui, donc le FMI, la Banque mondiale, dont le but finalement c'est d'assurer une croissance, que ce soit pour la redistribution, l'accaparement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas de maximiser un petit peu le développement économique, et puis à côté, on a d'autres organismes comme le GIEC ou l'IBES, qui sont plutôt des organismes qui informent ou font des scénarios pour l'avenir et qui nous expliquent qu'il faut prendre des mesures pour aller finalement contre les effets de ce développement, de ce développement-là. Et donc, on a une espèce de contradiction entre, d'un côté, ce qui est de l'ordre de la stratégie de maximiser la croissance, et puis de l'autre côté, ce qui est de l'ordre de la tactique beaucoup plus en aval, cette fois-ci, pour corriger les effets de cette croissance, corriger des trajectoires effectivement qu'on est en capacité de visualiser aujourd'hui. Et dans les entreprises, c'est un petit peu la même chose. On a aussi ce cadrage entre le cœur de l'activité d'un côté, qui est la stratégie, et puis à côté de ça, l'idée de dire, il faut atténuer les conséquences de ce développement. La responsabilité sociale, sociétale des entreprises va y pourvoir, et donc on va mettre en place des mesures qui vont permettre de diminuer nos impacts environnementaux. Il ne s'agit jamais évidemment de diminuer les causes de ces impacts, ce qu'il faudrait évidemment faire, et sachant qu'en fait, l'Anthropocène aujourd'hui met en cause justement le cœur de l'activité des organisations. Donc, ce n'est pas simplement les conséquences qu'il faudrait analyser comme des conséquences malheureuses. Si aujourd'hui, je suis chocolatier que pour développer mon activité, je déforeste des forêts en Afrique, ce n'est pas une conséquence malheureuse, c'est une condition de mon activité, ce que j'appelle moi comme un négatif finalement. Donc, effectivement, il y avait un enjeu à repenser les choses à la racine, repenser les causes et puis ouvrir des perspectives d'action beaucoup plus radicales, et notamment en nous intéressant très concrètement à non pas le fait de trouver des solutions magiques qui permettent d'opérer de manière plus efficiente, en découplant, etc., etc., mais au contraire de nous dire, bon, la première chose, c'est qu'il faut déjà faire cesser les activités qui ne sont plus soutenables, qu'on ne peut pas maintenir, et donc comment est-ce qu'on met en place des savoirs qui nous permettent de fermer un certain nombre d'activités, d'y renoncer et de bien y renoncer, c'est-à-dire aussi en prenant en compte les attachements qui existent. Ça ne veut pas dire par la prise en compte des attachements de ne pas renoncer ou de ne pas fermer, mais ça veut dire de bien fermer en prenant en compte ces attachements qui sinon peuvent évidemment déboucher sur des situations difficiles. Quand vous avez des personnes qui dépendent économiquement d'activités qui sont problématiques, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenir ces activités. Par contre, ça veut dire qu'il faut mettre un soin tout à fait particulier à fermer, réorienter, rediriger les activités en question. Et c'est vrai aussi pour les infrastructures. Des infrastructures aujourd'hui qu'on ne pourra pas maintenir demain, on en est pour autant dépendant. Et simplement expliquer pourquoi est-ce qu'il faut prendre un soin particulier, ce n'est pas du tout, considérer que les enjeux écologiques sont importants, mais ça veut dire tout simplement que lorsqu'on touche à des attachements de ce type, dont les gens qui sont des attachements qui les affectent malgré eux, on peut déboucher sur des crises évidemment très importantes, et c'est ce qu'on a vu avec la crise des gilets jaunes. Ce qui était en cause, c'est la prédominance de l'infrastructure routière et la dépendance à l'automobile, et ça ne se déconstruit pas évidemment du jour au lendemain ou d'un claquement de doigts. Il ne s'agit pas non plus de punir les gens en aval peut-être par de nouvelles taxes, mais de faire un travail beaucoup plus ordonné sur la dépendance à ces infrastructures, la dépendance au modèle de l'automobile, à la centralité de l'automobile dans notre société, voire même dans notre civilisation aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est un travail beaucoup plus ambitieux et ce n'est pas le travail qui avait été mené à l'époque.
Alors, si je comprends bien, en fait, la redirection écologique part du principe qu'en fait, la transition écologique, donc ce qu'on a parlé sur, on a parlé du découplage, de la RSE, ce genre de choses, ne sont pas satisfaisantes en fait pour atteindre les objectifs, que ce soit climatique, mais écologique en règle générale, et les objectifs sociaux également. Est-ce que vous pourriez dire un mot de pourquoi en fait la transition écologique est finalement un mauvais concept ?
Alors, mauvais concept, après on y met beaucoup de choses, donc je ne veux pas du tout accabler hein, en disant qu'il n'y a que la redirection écologique qui est bonne, et puis par contre, en quoi ça n'est pas forcément suffisant au regard des faits, si c'était suffisant, si ça permettait vraiment de traiter les questions qui se posent aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de faire émerger la redirection écologique, et la situation à laquelle on est serait différente sans doute. Ça n'est pas suffisant parce que ça joue encore sur ces paradigmes que j'indiquais tout à l'heure de découplage, de compensation, d'optimisation, et que surtout on ne veut pas voir en face justement cette idée de renoncement. C'est ça, je dirais, la différence principale. Rendre des activités actuelles compatibles sans effet rebond avec justement les objectifs qui sont les nôtres pour rester, alors ça semble bien illusoire, mais sous les 1,5 degré de réchauffement, ça reste malgré tout un objectif valable. Et puis il n'y a pas que le réchauffement, il y a tout l'ensemble des lignes planétaires qu'il faut évidemment prendre en considération, la biodiversité, etc., etc. Eh bien, ça ne se fait pas que par de l'optimisation, ça ne se fait pas que finalement avec des recettes qui sont des bonnes recettes, des recettes un petit peu, magiques. C'est comme s'il y avait une potion magique et puis on nous dit bon, personne ne prend cette potion magique, mais elle existe aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut avant tout arriver à renoncer aux éléments qui sont problématiques, donc ça veut dire des changements beaucoup plus profonds, y compris sans doute des changements politiques, mais dont nous pensons qu'ils vont s'imposer. Et en fait, on voit d'ores et déjà beaucoup d'arbitrage ou de renoncement qui sont mises en œuvre. Simplement, il faut le faire de manière ordonnée. Il faut le faire en prenant en compte des enjeux de justice sociale et de justice environnementale pour que ce ne soit pas des arbitrages autoritaires et non démocratiques. Et là, par contre, on a vraiment besoin à la fois de savoir technique de la fermeture, la désaffectation, du renoncement, mais aussi de politiser ces enjeux. C'est ça que propose, notamment, il y aura d'autres éléments bien sûr, mais c'est ça notamment que propose la redirection écologique et qui a un marqueur différenciant très fort par rapport à ce qu'on appelle parfois la transition écologique. La transition, on va dire, bon, est-ce qu'on veut avoir des emplois verts, est-ce qu'on va optimiser, est-ce qu'on va découpler, est-ce qu'on va maintenir notre niveau de vie aujourd'hui. Et nous, nous disons, tout ne peut pas être maintenu. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Et là, il y a des tas de savoirs qui font défaut. Il y a des savoirs bien connus en matière d'innovation, de plus en plus connus en matière de réparation et de maintenance. Par contre, en matière de fermeture, les savoirs sont beaucoup moins valorisés, beaucoup moins mis en avant. Et donc, un des enjeux, c'est de rendre ces savoirs-là, ces techniques-là, beaucoup plus mainstream, si je puis utiliser cet anglicisme, y compris de créer des formations pour justement permettre à des gens d'aller sur ces terrains, parce que du travail, d'ores et déjà, je peux en témoigner, il y en a en la matière et il va y en avoir de plus en plus. Donc comment est-ce qu'on transforme ça en une activité parfaitement légitime et qui doit s'imposer dans tous les domaines?
Alors, j'avais quand même une question pour revenir sur pourquoi en fait la transition écologique n'est pas possible, parce que bon, c'est vrai que ça peut paraître pour certains évident, mais pas pour tout le monde, de pourquoi est-ce que finalement le découplage ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui juste changer à la marge, optimiser, n'est pas suffisant au regard de la situation?
Il y a une expression anglaise qui le dit bien, qui dit « vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger ». C'est-à-dire que si on a son gâteau et qu'on le mange, on n'a plus de gâteau, et si on a son gâteau et qu'on ne le mange pas, on le garde, mais on ne le mange pas. Je dirais que la transition, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'idée d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui et puis d'arriver à le maintenir de manière un petit peu magique par une optimisation des processus, donc en les rendant plus efficients. Et dans ce cas-là, on s'expose par exemple aux effets rebonds, donc c'est-à-dire le fait que plus on rend un processus efficient de production ou autre, technique, eh bien, effectivement, plus on fait des économies d'un côté, mais plus on l'utilise. Et en fait, on va l'utiliser tellement plus qu'on ne fera pas d'économies, voire on va avoir de nouvelles pertes, et donc on va être perdant. Et vérité-là, qui est que plus on économise d'un côté, plus on dépense de l'autre, c'est quelque chose que l'on observe dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du numérique, etc., etc., depuis des décennies, voire pour l'énergie, depuis des siècles, en réalité. Et on ne combat pas facilement les effets de bord, les effets rebonds, et on les retrouve en fait à plein de niveaux. C'est pour ça que les réponses uniquement techniques, qui ne prennent pas en compte justement l'effet rebond, sont largement insuffisantes. Pour le découplage, c'est lié tout simplement au fait que, là encore, on observe qu'il n'y a pas forcément de découplage effectif entre le développement, la croissance, on va dire, et puis les impacts environnementaux, en espérant, c'est un petit peu l'idée sous-jacente au découplage, que plus on va améliorer nos dispositifs techniques, eh bien, plus on va avoir, finalement, on va minimiser les effets de la croissance, et moins ceux-ci seront coûteux au plan du développement économique, moins ceux-ci seront coûteux au plan environnemental. Là encore, ça n'est pas vrai, aussi pour des raisons liées à l'effet rebond, c'est-à-dire que plus on optimise, plus aussi on a ces effets rebonds, et donc du coup, on ne s'en sort pas. Et là, la littérature scientifique, pour le coup, est tout à fait unanime en la matière. Aussi le fait qu'on rencontre aujourd'hui des limites physiques au plan technologique, ce n'est pas simplement les effets rebonds, c'est aussi qu'on a beaucoup optimisé jusqu'à maintenant, et on rencontre des limites physiques qui font qu'on ne pourra pas continuer à optimiser de la même manière, selon les mêmes principes, et d'espérer avoir les mêmes gains, des gains qui étaient en plus, par ailleurs, des coûts. Ouais. Il y a tout un ensemble, finalement, de raisons qui font que, imaginer qu'on reste sur la même trajectoire, mais qu'on arrive à découpler, finalement, les effets de cette trajectoire, et à les traiter à part, est largement illusoire. Il faut sortir plus largement de ces raisonnements, encore une fois, où on aurait le cœur de l'activité et puis des externalités négatives qu'on pourrait traiter par des moyens techniques, par des moyens d'optimisation, par du découplage, etc., etc. En réalité, les externalités ne sont pas des externalités, ce ne sont jamais des conséquences malheureuses, ce sont des conditions de nos activités. C'est pour ça qu'il faut revoir ces activités, repenser ces activités, parfois renoncer à ces activités pour aller au cœur des choses et qu'on ne peut pas simplement se satisfaire de ce cadrage qui est un cadrage des économistes. Hein, finalement, on a des conséquences malheureuses et ces externalités, il faut les, comme disent les économistes, les réinternaliser dans le marché et faire reconnaître ce qui appelle en fait soit des solutions d'économistes pour imaginer des compensations, voilà, soit des solutions technologiques pour faire disparaître justement les externalités en question, qui sont deux types d'approches qui, voilà, heureusement ou malheureusement, ne fonctionnent pas.
Alors, je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites par rapport au fait que les externalités ne sont pas des conséquences, mais sont en fait intrinsèques même à l'activité, à ses besoins et sont au cœur même de son existence. Est-ce que vous pourriez peut-être prendre quelques exemples pour expliquer ça un peu plus, de manière plus palpable ?
Alors, un exemple que je prends assez souvent, c'est l'exemple du smartphone, qui est une technologie vraiment très avancée. Hein. Le smartphone, c'est vraiment des matériaux, des métaux précieux, des métaux rares, et on met tout ça dans un dispositif numérique très, très avancé, très high-tech. Et c'est intéressant parce que c'est un dispositif très high-tech. C'est le même qu'ont des PDG du CAC 40 et des réfugiés. Pour d'autres, pas pour les mêmes raisons, mais c'est de dire à quel point on en est dépendant aujourd'hui. Alors, parfois, on stigmatise les réfugiés, on dit « mais regardez, ils ont des téléphones ». Parce qu'en fait, le téléphone pour un réfugié, c'est devenu l'équivalent de la maison, finalement. On a toutes ces informations, on a tous ces éléments. Et donc, le dernier élément auquel on se raccroche pour pouvoir, justement, naviguer un petit peu dans un monde très incertain, c'est justement le téléphone, le smartphone. Aujourd'hui, vous n'avez pas de smartphone tel qu'on les connaît actuellement, sans avoir des proto-esclaves à Taïwan, dans les usines de Foxconn ou dans d'autres usines, et des enfants aussi, un peu des proto-esclaves en Afrique qui vont chercher les métaux dans les mines. Et ça, ce ne sont pas des conséquences malheureuses de ce système. Vous n'avez pas le smartphone au prix où on l'a aujourd'hui et avec son développement, avec plusieurs milliards de smartphones qui sont en circulation, sans avoir ces éléments-là. Donc, ce ne sont pas des éléments qui sont extrinsèques, ce sont des éléments qui sont intrinsèques au smartphone. Si j'ai un smartphone, alors je peux toujours dire, oui, mais regardez, il y a le Fairphone, mais le Fairphone n'est qu'une toute petite niche et lui-même ne résout pas du tout l'ensemble de ses problèmes. Il permet à des ouvriers de se syndiquer, notamment en Asie, mais c'est pas non plus, ils n'ont pas un salaire français ou autre. Hein, voilà. D'ailleurs, eux-mêmes sont assez transparents par rapport à ça. Ils font un peu de leur mieux, mais c'est pas non plus la panacée. La possession même du smartphone vous relie finalement à ces enfants qui descendent dans les mines en Afrique, à l'exploitation des métaux dans ces pays-là et à ces proto-esclaves en Asie. Donc, ce n'est pas des conséquences malheureuses, hein, c'est vraiment des conditions pour alimenter un marché au niveau où il l'est aujourd'hui, au prix où il est alimenté aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre ça, il faut bien remettre finalement tous ces éléments au cœur du dispositif, pas se dire le dispositif pourrait exister sans ça. Non, d'ailleurs, le dispositif ne pourrait pas exister sans les enfants qui vont dans les mines en Afrique, parce que pour fabriquer un smartphone, vous avez besoin de, grosso modo, 80% des éléments du tableau périodique, et donc, on ne pourrait pas aller les chercher véritablement ailleurs. Donc voilà, ce ne sont pas, encore une fois, des conséquences malheureuses qu'on pourrait imaginer faire disparaître un jour. De la même manière que si on se dit, malheureusement, tous les habitants du monde n'ont pas accès à ces technologies au même niveau de vie, là encore, ça n'est pas une conséquence malheureuse du modèle actuel de développement, c'en est une condition. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, ça n'est pas possible d'avoir accès à toutes ces technologies à ce niveau de vie. Ce n'est pas possible de généraliser ça à l'ensemble des habitants de la planète. Il y a un anthropologue qui s'appelle Alf Hornbork qui dit que la technologie pour lui, c'est la cristallisation de déplacements de travail, de matières premières et d'énergie d'une zone de la planète à une autre. Et donc, ça suppose un échange écologique inégal. Et donc, ce qui dit échange écologique inégal dit qu'on ne peut pas généraliser ce qui est à l'origine de cet échange écologique inégal, parce qu'il faut bien qu'il y ait des zones bénéficiaires et des zones qui soient perdantes. De la même manière, on ne peut pas imaginer que dans le système économique mondial, tout le monde soit gagnant. C'est un peu comme une pyramide de Ponzi, hein, finalement. Tout le monde ne peut pas être au sommet de la pyramide. Voilà. Donc ça, ce ne sont pas des externalités négatives, ce ne sont pas des conséquences malheureuses, ce sont des conditions tout simplement du système. Et je dis ça sans chercher à choquer moralement ou quoi. C'est juste un élément d'analyse. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement à partir de ça.
Alors justement, c'est vous devancez ma question, parce que j'allais revenir sur la thématique du renoncement qui est au cœur du coup de la redirection écologique, et essayer de comprendre en fait, déjà comment est-ce qu'on définit ce à quoi on doit renoncer, sur quelle base, et puis peut-être après, comment est-ce que ça se passe dans les faits, au niveau des secteurs, qui sont les gens qui prennent ces décisions dans les entreprises, au niveau politique, comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en place?
Alors c'est effectivement une très très bonne question. Il faut, je dirais pour commencer, éviter en fait les prises de décision auxquelles on assiste aujourd'hui, qui sont des prises de décision autoritaires. Je parlais de Taïwan tout à l'heure. À Taïwan, il y a des arbitrages qui sont intervenus récemment, notamment en lien avec l'industrie des semi-conducteurs, des microprocesseurs là-bas. Notamment, il a été fait choix de réserver de l'eau pour cette industrie au détriment des habitants de Taïwan. Ce qui est évidemment un choix très, très problématique. Et donc, les choix que l'on réalise aujourd'hui sont souvent des choix effectués au pied du mur, et de manière autoritaire et non démocratique. Ce qui est évidemment problématique. Par contre, on voit que quand on est attentif à ces questions-là, il y a de plus en plus d'arbitrages qui sont effectués. Donc, parler d'arbitrage, parler parfois aussi de renoncement, ce n'est pas du tout quelque chose qui, on va dire, est déconnant par rapport à la situation, mais c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus. Donc la question qui va se poser maintenant, c'est à quelles conditions on renonce, à quelles conditions on fait des arbitrages. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas à moi, par exemple, de dire à quoi il faut renoncer. J'ai quelques idées par rapport à ça. Le charbon, le pétrole, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on y renonce? C'est aussi ça la vraie question. Ce n'est pas si facile de renoncer à des énergies qui sont effectivement très polluantes et qui émettent du CO2 ou des équivalents de CO2 dans l'atmosphère, mais alors que des populations entières en sont dépendantes. Donc, il ne faut pas non plus minimiser, négliger justement ces dépendances et ces attachements. Sinon, voilà, on émet comme ça des belles paroles, mais derrière, l'intendance, on va dire, ne suit pas. Or, c'est aussi à ce niveau-là que les choses sont intéressantes et importantes. Comment est-ce qu'on renonce? Eh bien, je dirais que c'est pas, il ne s'agit pas de se prononcer sur les renoncements auxquels il faut consentir à la place des populations concernées, mais il faut tout simplement arriver à démocratiser ce processus de renoncement à différentes échelles. Ça peut être des décisions qui peuvent être prises à l'échelle des mairies, des départements, des régions ou autres. C'est plus compliqué au niveau de la politique nationale et les COP en sont justement le témoignage. Là, je dirais qu'il y a aussi il ne faut pas être uniquement pessimiste par rapport à ça, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes temporalités ou les mêmes visions. Et je crois que ces dernières années, on a assisté très largement à un décrochage de la politique nationale en matière de mesures concernant l'environnement et de perspectives plus largement concernant l'environnement, là où, dans d'autres régions, on voit que parallèlement, il y a des processus qui s'accélèrent et des, j'aime pas tellement l'expression, mais des prises de conscience qui s'accélèrent, mais des prises de conscience, on va dire, pour l'action, pas juste des prises de conscience comme ça, décorrélées de l'action. Quand vous êtes dans des régions, par exemple, où il y a des digues, on sait qu'elles vont être inondées demain, oui, il y a des gens qui se posent des questions concernant l'avenir, concernant des arbitrages qu'il va falloir de toute manière réaliser et qui se projettent dans des situations dont on ne parle pas forcément au niveau national, mais on en parle à d'autres échelles. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ces renoncements qui vont être nécessaires? Eh bien, en mettant en place finalement de nouvelles institutions, de nouveaux protocoles qui soient démocratiques et qui permettent justement de consulter les populations, de les informer, de les consulter par rapport à ces renoncements et de leur permettre aussi d'enquêter en fait largement, démocratiquement sur les renoncements en question, sur leurs attachements, sur leurs moyens de subsistance et de comprendre eh bien, qu'on ne pourra pas tout maintenir même à une échelle locale et de savoir ce à quoi il va falloir renoncer pour les associer à la réflexion et à la mise en place justement pratique de ces renoncements. Mon collègue, par exemple, pas pareil dans le vide, Diego Landivar, a travaillé dans le cadre du master que je dirige. L'année dernière, il continue un petit peu là encore et finalise ce travail. A travaillé avec la ville de Grenoble autour des infrastructures sportives et notamment des piscines, parce que les piscines, voilà, c'est piscines municipales notamment. Alors, je ne vais pas parler à sa place, hein, mais je peux en donner quelques éléments de ce travail. Ce sont des éléments, des infrastructures qui deviennent vétustes assez rapidement. Une piscine municipale, ça dure 30-40 ans, ce qui est très peu quand on y pense, hein, par rapport à l'usage qu'on veut en faire. Donc, au bout de ce temps-là, il faut soit en construire, soit les fermer. Ce n'est pas forcément ce qu'on va en faire. Ce sont un petit peu des gouffres au plan énergétique, hein, notamment pour ce qui est fait de chauffer ces piscines, évidemment, les maintenir. Et voilà, ça pose également d'autres questions. En même temps, ces piscines-là, notamment à Grenoble, pour les gens qui connaissent Grenoble, qui est une cuvette, eh bien, l'été, on est bien content qu'elles existent. Il y a des populations qui apprennent à nager dans ces piscines-là. Donc, ça peut être vraiment très important pour elles d'y avoir accès. Et donc, ça peut être parfois des éléments très légitimes. C'est facile quand on parle, enfin, c'est facile. Quand on parle du charbon, la question, c'est juste comment est-ce qu'on en sort. Mais on veut tous, d'une certaine manière, en sortir. Pas forcément sortir des effets de la dépendance à l'énergie. Mais en tant que tel, le charbon, on voit bien que c'est polluant. Là, on parle d'infrastructures qui rendent de vrais services bénéfiques, y compris pour les catégories populaires, comme j'ai indiqué, apprennent à nager notamment largement dans ces piscines-là. Et puis voilà, pour l'été, pour les gens qui veulent se rafraîchir et qui vont de plus en plus vouloir se rafraîchir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut mettre en place, en tout cas, des protocoles démocratiques de renoncement, sur lesquels travaille donc Diego Landivar, pour permettre à ces populations-là d'enquêter elles-mêmes sur leur dépendance à ces infrastructures, sur leurs attachements à ces infrastructures, pour comprendre aussi qui sont les gens que ces infrastructures et leur maintenance permettent de faire vivre, tous les plombiers, les chauffagistes, etc., toute une population dont on n'a pas forcément idée. Et si on n'enquête pas au préalable et qu'on tranche dans le vif, avant d'avoir enquêté, évidemment, on ne peut faire que des dégâts. Donc, il y a un enjeu déjà à être conscient de ses propres attachements. Et ça se généralise finalement à tous les secteurs, à tous les domaines, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça et savoir exactement qui est attaché à quoi. C'est pas possible. Donc il faut aller voir sur le terrain, il faut enquêter, il faut permettre aux gens aussi d'enquêter sur leurs propres attachements, d'être partie prenante finalement de ce processus-là. Et une fois qu'on a cartographié, si je puis dire, ces attachements, eh bien on est en capacité de dire à quelles conditions et comment est-ce qu'on va déconstruire très concrètement finalement ces infrastructures, ces attachements pour se réattacher à autre chose. Et donc dans l'exemple des piscines, ça peut être par exemple d'imaginer un autre rapport à l'environnement, de permettre en fait de prendre ces propriétés qui définissent ces piscines municipales et d'essayer de les réinvestir dans d'autres infrastructures, voire pas forcément dans des infrastructures, mais dans des éléments de nature où effectivement les gens peuvent éventuellement se baigner, on peut encadrer tout ça, et donc de maintenir finalement les services que rendent ces infrastructures, mais tout à fait autrement. Donc voilà, c'est une des réponses possibles, et en tout cas la généralisation de ces principes, de ces protocoles de renoncement et des instances qui permettent démocratiquement de les traiter. À Grenoble, c'était dans une espèce de conseil de quartier où les gens étaient associés à cette réflexion. Eh bien, ça, c'est effectivement ce vers quoi il faut aller. C'est un principe qu'il faut évidemment généraliser aujourd'hui, mais qui peut se généraliser à plein de domaines. Que va devenir l'aviation? Que vont devenir des stations de ski? Enfin, là, c'est éminemment généralisable.
Justement, j'allais venir là-dessus. De ce que je comprends, en fait, il y a plusieurs échelles. Là, on parlait de la ville de Grenoble. Si on parle de l'aérien, par exemple, c'est vraisemblablement pas à l'échelle locale que les choses...
La ville de Toulouse, quand même.
Comment ?
La ville de Toulouse, quand même.
Oui, la ville de Toulouse, oui, effectivement, oui. Sur la ville de Toulouse, effectivement, au niveau des attachements, je pense qu'il y a pas mal de choses, très clairement. Mais ce que je voulais comprendre, c'était au départ, même... avant de parler des attachements, des différentes échelles locales ou un peu moins locales, pour la prise de décision, en tout cas pour la consultation et la concertation sur ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on définit ce à quoi il faut ou non renoncer, en fait, selon quel facteur? Comment on dit, est-ce que c'est par rapport à l'empreinte carbone? Est-ce que c'est par rapport finalement à la pollution? Est-ce que c'est par rapport à quoi, en fait, on arrive à chiffrer en fait, qu'une activité, qu'un secteur est finalement un peu dans le rouge ou complètement dans le rouge, et qu'il va falloir réfléchir à y renoncer en partie ou complètement.
Alors, je dirais que là, les indicateurs que nous suivons, ce sont grosso modo les limites planétaires. L'idée, c'est pas juste d'en rester au carbone, parce que si on a que le prisme carbone, effectivement, on peut négliger plein de choses. Par exemple, la vie des sols, c'est au moins aussi important que le carbone. Pouvoir continuer à se nourrir demain, c'est très très important. Donc voilà, il faut prendre ces éléments-là en compte. Et du coup, les limites planétaires ou l'anthropocène analysé et compris à travers les limites planétaires, pour nous, c'est un bon guide finalement pour identifier les activités qui doivent disparaître, en sachant que aujourd'hui, la situation n'est pas forcément telle qu'on soit dans la désignation des activités, et puis les gens qui travaillent dans ces domaines-là seraient surpris. Ah bon, mais on ne se doutait pas du tout qu'on serait la cible comme ça de Khmer Vert et que vous alliez demander notre disparition. En réalité, les gens, grosso modo, sont tout à fait conscients que leurs activités vont devoir bifurquer très profondément dans les prochaines années, qu'il va falloir en partie ou complètement y renoncer, ou à certaines infrastructures. Et donc, on est moins dans cette nécessité de faire une sorte de pédagogie en expliquant, bah voilà, il faut renoncer à ça, ça, ça ou ça, qu'en fait, d'observer que d'ores et déjà, il y a des murs physiques ou législatifs qui font que tout un ensemble de domaines sont en train de basculer et de voir leur fin finalement arriver. C'est un petit peu ce que décrit mon collègue Emmanuel Bonnet quand il nous dit que toutes les organisations aujourd'hui sont des stations de ski de basse altitude. Et les stations de ski de basse altitude, eh bien, elles contemplent leur fin proche, leur fin à venir. Alors, ce sont des fins qui sont plus ou moins proches. Il y a aussi des stations qui sont dans les Alpes qui contemplent moins directement leur fin, mais quand même, qui peuvent d'ores et déjà y réfléchir. Et donc, c'est plutôt ça, finalement, l'enjeu aujourd'hui. Si on prend tous les domaines possibles, l'automobile, on voit bien que dans de plus en plus de villes, notamment, on commence à interdire la circulation des automobiles. Alors, ce n'est pas simplement les automobiles à essence, hein, mais ça peut être aussi plus largement les automobiles en général. Les stations de ski, on en parlait tout à l'heure. La mode, on en parle de plus en plus, de l'impact effectivement du fast fashion qui n'est pas du tout tenable, et peut-être qu'il va falloir interdire le fast fashion. Une ministre récemment qui a parlé de la maison individuelle. Je rebondis sur Toulouse, parce qu'à Toulouse, il y a eu dans les actualités des annonces locales expliquant qu'on ne pouvait plus développer des maisons individuelles parce qu'on ne pouvait plus s'étendre. En fait, c'est plus possible, c'est plus un modèle qui était pérenne. Donc en fait, quels que soient les domaines concernés, on se rend compte qu'il y a énormément de modèles, d'activités, d'infrastructures qu'on ne peut tout simplement plus maintenir. Il y a des problématiques autour de ça, hein, le zéro artificialisation pour les sols, alors net pour les sols, mais bon, il faudrait aller vers du brut plutôt. Nous, on a travaillé sur la question dans le cadre du master, on a fait une commande avec une entreprise qui s'appelle Arpastrans autour de la question de l'arrêt de la construction neuve en Ile-de-France. Et donc là, comment est-ce qu'on en vient à réfléchir à ça? C'est tout simplement une entreprise dans ce domaine-là qui se rend compte que si on analyse un petit peu les dépenses, les impacts de la construction, du BTP de la construction, quand même, c'est un domaine évidemment très important, hein, émetteur de carbone. Il n'y a pas que le carbone, il y a des déchets, il y a tout un tas de choses. Eh bien, la question de l'arrêt de la construction, en fait, se pose, va de plus en plus se poser dans les prochaines années. D'autant plus que la situation est telle qu'avec le Grand Paris, on construit des logements pour des gens qui ne peuvent pas se les acheter, alors que les logements dont on a besoin sont déjà construits. Donc voilà, ce n'est pas forcément une surprise pour les gens qui sont concernés par tous ces arbitrages. Les gens ne sont pas forcément surpris, ils voient bien qu'il faut opérer ces arbitrages, simplement, ils ne savent pas comment. Les professionnels, par exemple, du secteur en matière de construction, savent construire, n'ont pas encore les moyens de basculer vers une économie ou le savoir-faire pour basculer vers une économie de la rénovation. Les collectivités ne savent pas encore basculer vers une économie de la rénovation. Elles savent gagner de l'argent avec la construction. Par contre, la rénovation leur coûte de l'argent. Donc, si vous leur demandez aujourd'hui de basculer de l'un vers l'autre, c'est tout leur modèle économique qui change. Donc, il faut apporter des réponses techniques claires à ces enjeux pour permettre ces bascules, qui sont des bascules par ailleurs très importantes, et qui ouvre sur encore plus de réflexions des réflexions encore plus radicales, parce que si on pose la question de l'arrêt de la construction neuve, derrière, ce qui est potentiellement à remettre en cause, c'est la propriété privée telle qu'on la connaît aujourd'hui, assimilée à un capital, donc dans l'idée de la faire fructifier, de revendre, de spéculer autour du foncier, là où peut-être il faudrait demain l'envisager beaucoup plus comme un patrimoine. Donc on peut arriver à des changements finalement très radicaux, mais en partant de prises qui sont des prises relativement techniques, urgentes, qui s'imposent à nous.
Et justement, quelle est la place des entreprises, et notamment des entreprises privées, dans la redirection écologique, puisque finalement, de ce que je comprends, c'est plus apprendre à renoncer dans les différents secteurs en fonction des différentes limites planétaires, on va dire, et des paliers de sociaux à respecter. Mais comment est-ce qu'on peut laisser de la liberté entrepreneuriale ou de la liberté complète, j'allais dire, d'agir à des entreprises de droit privé dont l'objectif, in fine, est principalement le profit, dans ce cadre-là? Est-ce que c'est encore possible, en fait, de garder une structure des entreprises, un système d'entreprises tel qu'il existe aujourd'hui?
Alors, c'est une très bonne question. La réponse, je dirais, est non. D'un autre côté, il ne faut pas non plus s'abstenir de penser que les entreprises existent parce qu'aujourd'hui, en fait, un grand nombre de nos activités sont prises en charge par des entreprises. Même des entreprises, parfois, qui ont des délégations de services publics, mais ce sont quand même des entreprises. Et on a énormément d'activités qui sont prises en charge par les entreprises. Donc, même si les entreprises, et c'est quelque chose qu'on défend, les organisations ne sont pas adaptées aux nécessités de l'Anthropocène dans leur forme actuelle, on ne peut pas simplement détourner le regard ou même dire « bon, bah voilà, on va se passer d'entreprise ou on ne va pas y penser » parce que justement, on a cette dépendance finalement à ces organisations qui pullulent et qui prennent en charge des aspects toujours plus nombreux de nos existences. Mais pas forcément selon le bon principe et pas forcément selon les bons modèles. Comment est-ce qu'on arrive à hériter finalement de toutes ces organisations qui ne sont pas taillées pour l'Anthropocène, tout simplement, qui ne sont pas taillées pour nous permettre de maintenir l'habitabilité sur Terre? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc il y a un enjeu effectivement à arriver à basculer vers d'autres modèles, d'autres manières de fonctionner, d'autres modèles économiques, par exemple, pour ces entreprises, d'autres manières de fonctionner, d'autres finalités, que, effectivement, cette guerre économique généralisée dans laquelle, finalement, sont insérées les entreprises. Donc oui, c'est un enjeu très important, il faut intervenir, et en même temps, c'est pas non plus complètement décorrélé. C'est pas des idées comme ça qui flottent un petit peu dans le ciel éthéré des idées platoniciennes, parce que les entreprises elles-mêmes, les organisations elles-mêmes contemplent justement des murs qui vont leur arriver. Je parlais tout à l'heure de murs physiques. Parfois, ce sont des activités qui ne vont pas pouvoir être maintenues. Les stations de ski, c'est le cas. Voilà, il y a des murs physiques qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir maintenir le ski, ou alors avec des coûts absolument exorbitants, de la neige artificielle, des choses comme ça. Mais voilà, ça ne va pas se faire partout, et d'ores et déjà, on assiste à des fermetures ou des organisations de fermetures pour anticiper l'avenir. Mmh. Ça, c'est des modèles très, très intéressants pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe.
Juste, Alexandre, oui. Je me permets de préciser, quand vous parlez de murs physiques, ça peut être au niveau des problématiques écologiques, donc par exemple des dépassements de plafonds écologiques, mais ça peut être aussi disponibilité des ressources.
Tout à fait, okay. Tout à fait. C'est des murs physiques au pluriel qui ne permettent plus de maintenir une activité. Donc soit il n'y a plus de neige, ou il ne peut plus y avoir de neige à un endroit, soit effectivement on ne peut plus utiliser des ressources, soit qu'elles ne sont plus disponibles, soit qu'on n'arrive plus à les faire venir parce que c'est trop coûteux. On voit aujourd'hui alors on n'est pas toujours dans ce cas-là, mais il suffit qu'il y ait une augmentation des prix des containers, c'est toute l'activité qui change, il suffit qu'il y ait une augmentation des prix de l'énergie aussi. On en a parlé en Angleterre notamment, enfin, au Royaume-Uni. À un moment donné, on s'est posé la question, je n'ai pas regardé si ça avait été le cas ou non, mais d'abattre 50 000 ou 100 000 porcs parce que économiquement, on ne pouvait plus maintenir l'activité avec un seuil de prix de l'énergie qui était franchi. Donc demain, si on fait face à de tels franchissements de seuil, c'est tout un ensemble d'activités de toute manière qu'il va falloir, qu'on ne pourra pas maintenir, en tout cas avec les règles du jeu actuelles. Et puis des murs législatifs, parce qu'il est tout à fait possible justement que des réglementations se mettent en place, parce qu'on est un peu entre la dérégulation et la régulation, hein, on est vraiment pris entre les deux, mais qu'à un moment donné, la situation se dégradant, eh bien des réglementations drastiques soient mises en place pour dire bah, en fait les voitures cessent de circuler dans les villes, on arrête ça, on arrête ça, on arrête ça, et que les organisations se retrouvent finalement à faire face à ces interdictions, à ces arbitrages brutaux, mais d'un coup d'un seul et sans l'avoir forcément anticipé. Donc ça effectivement il faut bien avoir ces éléments là en tête. Donc il faut effectivement changer certaines règles du jeu. Alors c'est pas pour dire oui mais si on change pas le capitalisme en général ça ne marchera pas, etc. On peut toujours effectivement penser ça, mais je pense que la déconstruction globale d'une entité aussi englobante que le capitalisme n'est pas forcément le meilleur levier d'action pour agir. Et ça, quand on parle de capitalisme, d'ailleurs, on ne parle pas forcément d'entreprise. Parce que les entreprises, elles sont dans autre chose finalement que directement dans le capitalisme. Hein. C'est deux niveaux d'analyse qui sont quand même largement différents. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prises justement pour imaginer d'autres modes de fonctionnement. Nous, on travaille avec des gens qui sont au Canada, et qui d'ores et déjà expliquent à leurs clients qui sont dans la redirection écologique qu'il faut arrêter de croître. Et les gens l'entendent parce qu'en fait, ça ne marche plus. Il y a des choses qui tout simplement ne fonctionnent plus. Quand on vous demande de faire 15% de croissance par an dans certains pays, ça ne marche plus. Et donc des choses dont on pense qu'elles ne sont pas envisageables, en réalité, le sont malgré tout. Et il faut dans tous les cas apporter les outils concrets, techniques, pour les rendre envisageables. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut fonctionner autrement, mais qu'on n'a pas apporté des outils qui le permettent, qu'on n'a pas fait la démarche voilà, techniquement de rendre ça possible, eh bien ça va encore moins fonctionner. Donc il y a un enjeu à fabriquer les leviers d'action qui permettent de basculer vers d'autres modèles et de bénéficier, je dirais, de cet effet d'entraînement et eh bien de ces arbitrages qui arrivent de plus en plus, de ces murs physiques et législatifs qu'on rencontre de plus en plus, pour encourager ces mouvements-là, surfer, j'allais dire, sur ces tendances-là, parce que de toute manière, c'est là qu'on a de la capacité à agir. Ce n'est pas forcément dans les COP et au niveau des États. Donc, il faut bien, comme dirait l'autre, enfourcher ce tigre-là et arriver justement à aller encore beaucoup plus loin en outillant justement ces dynamiques, ces tendances. Et voilà. Donc, par rapport aux entreprises, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne.
Et justement, comment est-ce que ça se passe, les outils en entreprise? C'est une redéfinition de la valeur réellement créée par l'entreprise. Si je prends des exemples comme, par exemple, une entreprise comme Total ou même comme L'Oréal, en fait, hein, qui va produire de nombreux produits un peu partout dans le monde, qui sont des produits dont la valeur intrinsèque est assez faible, en fait, puisqu'ils peuvent être remplacés par des matières primaires qui font très bien le travail, en tout cas pour les cosmétiques. Ça veut dire renoncer, en fait, complètement, entièrement à leur activité dans le cadre de certaines entreprises.
Ça veut dire effectivement tout à fait renoncer à certaines activités, à certains pans d'activité, mais je pense que de plus en plus d'entreprises le contemplent. Je pense que certaines personnes chez Total sont tout à fait conscientes de ça. Ça ne veut pas dire qu'elles vont tout de suite dans la bonne direction. Et là, la différence entre Total et L'Oréal, c'est qu'effectivement, L'Oréal, on peut plus facilement se passer de ses produits que finalement Total, même si Total apparaît comme et de fait problématique, hein, rapport aux autres pays, d'ex-territoires colonisés, l'énergie, etc. Mais par contre, le produit qu'il apporte de l'énergie est un produit extrêmement important, dont on ne peut pas se passer comme ça d'un claquement de doigts. Donc oui, ça veut dire qu'effectivement, il faut accompagner les entreprises, parfois pour euthanasier finalement leurs activités, c'est-à-dire anticiper la fermeture d'activités qui de toute manière vont devoir disparaître. Et vont disparaître, c'est pas qu'elles vont juste devoir disparaître, c'est encore ne pas prendre la mesure de la situation dramatique dans laquelle on est que de se dire « Ah, on a des gens qui sont de mauvaise volonté et qui vont maintenir ces activités le plus longtemps possible. » Parfois, c'est le cas, mais est-ce que ces activités seront maintenables le plus longtemps possible? Ça reste à voir. Et ce n'est pas voir que la dégradation des conditions économiques, des marchés, etc., va faire que sans doute, de toute manière, ces interruptions, ces arrêts vont se produire plus tôt que ce qu'on imagine, et il faut les anticiper, il faut accélérer justement la prise en charge de ce démantèlement. Et évidemment, là, il y a de nombreux leviers d'action. Donc, c'est un petit peu cette situation qu'il faut généraliser aujourd'hui à toutes les organisations. C'est-à-dire que toutes vont devoir renoncer à l'ensemble de leurs activités. Par contre, elles vont devoir renoncer collectivement à un certain nombre de fonctionnements. Effectivement, le fait d'être mu par le profit, de traiter ce qui ne va pas comme de simples externalités, sans toucher évidemment au cœur de leur activité. Ça, effectivement, comment est-ce qu'on arrive à remettre les organisations sous les limites planétaires, mais ça veut dire aussi renoncer par contre à tout un pan de leur activité. Donc oui, ça veut dire des changements en profondeur. Ça ne veut pas dire, ce faisant, qu'on dit il faut maintenir le capitalisme tel qu'il est, si on veut utiliser ce terme-là, et puis tout changer. Ça veut dire que pour commencer à changer ça, il faut s'appuyer sur les dynamiques qui sapent finalement ces fondements du capitalisme, mais qui le font non pas au niveau de généralité où on attaquerait l'entité capitalisme en tant que telle, mais par contre, finalement, au niveau où on ne peut pas maintenir ce fonctionnement des organisations capitalistiques telles qu'il existe aujourd'hui, que d'ores et déjà, on voit que ça n'est pas possible et que ce ne sont pas des choses qui vont être maintenues dans les prochaines années, et donc d'accompagner et d'approfondir ce mouvement. Voilà, c'est plutôt le fait d'user de ces dynamiques déjà en cours, de les accompagner, de les amplifier, et ensuite de créer des outils, des dispositifs, des protocoles permettant de généraliser ces approches-là, plutôt que d'arriver dans une espèce de titanomachie, on dit voilà, je vais défier le capitalisme, et puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, souvent, ça veut dire j'écris des livres contre le capitalisme, qui n'est pas tout à fait la même chose.
Et du coup, c'est vraiment à chaque fois se pencher sur le problème aussi au niveau local, donc au niveau de l'entreprise. Et j'imagine que les réponses, bien évidemment, sont toujours assez différentes. On le disait dans le cas de L'Oréal, par exemple, où finalement l'utilité des produits créés au niveau sociétal n'est pas grande. On peut finalement envisager une fermeture, un renoncement pour aller vers d'autres activités ou en tout cas travailler sur l'activité de l'entreprise. Dans le cas d'autres entreprises comme Total ou Suez, où en fait on touche à l'énergie et où il y a une valeur en fait extrêmement importante, j'imagine que ça peut prendre d'autres formes, comme renationaliser, faire devenir des entreprises de biens communs. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez, où il y a des outils en fait disponibles pour...
Tout à fait, en tout cas, ce sont des chantiers sur lesquels effectivement on travaille. Alors moi, je ne dirais pas renationaliser, je dirais socialiser. Parce que renationaliser, on peut toujours se dire derrière, c'est un pilotage de l'État qui peut finalement être dans un capitalisme d'État et puis voilà, maintenir à peu près les choses en l'état, alors que socialiser, on a quand même cette idée là d'une gouvernance tout à fait différente. Je mettrais cette nuance. Et oui, je pense que par exemple pour des acteurs du numérique bien connus qui étaient autrefois des services publics, demander aujourd'hui à être renationalisé ou socialisé, c'est aussi un bon pari pour l'avenir, parce que ce sont des acteurs qui économiquement porte par exemple le poids des infrastructures numériques grandissantes sans forcément tirer la valeur, puisque là on sait que ce sont les GAFAM qui s'en emparent, donc ils n'ont aucun intérêt finalement à être des entreprises privatisées. Donc oui, ça veut dire travailler sur des plans, par exemple ça veut dire aussi socialiser les plateformes. On parle beaucoup du démantèlement de Facebook, oui je pense que ça fait partie des éléments peut-être qu'on identifie moins comme étant du ressort de la redirection écologique parce qu'on ne voit pas forcément l'impact environnemental et que ça n'est pas qu'un impact environnemental, c'est aussi la question de la gestion de l'information, de l'implication dans les élections de ces acteurs-là qui modifient effectivement la destinée parfois de certains pays et qui sont des acteurs extrêmement toxiques et qui sont aussi toxiques pour les changements qui doivent advenir. Donc oui, démanteler, désaffecter pour les réaffecter, ces acteurs-là, effectivement, je pense que ça fait tout à fait partie des réflexions qu'on doit avoir aujourd'hui, et donc bâtir des plans concrets, tout simplement, pour le faire. Comment aujourd'hui, au-delà du slogan, au-delà du mot d'ordre, et je pense qu'on sera nombreux à être d'accord, comment, à quelles conditions on démantèle Facebook, à quelles conditions on resocialise un certain nombre d'acteurs existants, et pourquoi faire ? Ben là, il y a du vrai travail à faire, parce que les réponses, justement, n'existent pas, parce qu'on est plutôt dans... comment dirais-je, on se situe rarement dans l'idée de dire qu'on va travailler sur ces chantiers-là. Il faudrait travailler sur ces chantiers-là, il faudrait créer les conditions pour le faire. Mais en fait, travailler sur ces chantiers-là, créer les conditions pour le faire. C'est-à-dire que ça fait... c'est parce qu'on a un plan qu'on peut le mettre en œuvre. Il ne faut pas se dire, il faut d'abord que j'ai toutes les conditions pour pouvoir mettre en œuvre mon plan et après je ferai mon plan. Ça ne marche pas comme ça.
Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on travaille dans une grosse entreprise cotée ou qui a un peu du mal à bouger, mais qu'on a envie finalement, qu'on est bien conscient hein, du fait qu'il va falloir renoncer à certaines activités, qu'on va dans le mur au niveau des différentes contraintes. Est-ce que le travail est à faire en interne et si oui, de quelle manière et sinon, est-ce que en fait, le travail n'est pas plutôt un travail de lobbying en extérieur à travers de nouvelles initiatives, ou peut-être un peu les deux?
Forcément les deux. Pour moi, il y a vraiment un enjeu presque un peu militaire là-dedans. Souvent, on ne parle pas trop comme ça, mais à identifier les vulnérabilités, quelles qu'elles soient, et puis ensuite à tout simplement travailler sur ces vulnérabilités. Dans le cas que vous mentionnez à l'instant, on sait qu'une des vulnérabilités aujourd'hui, même le patron de Total en parlait, etc., c'est que de plus en plus de personnel de ces entreprises soit souhaitent faire défection, des cadres, etc., soit ce sont des jeunes, notamment des jeunes ingénieurs, qui ne veulent pas travailler pour ces entreprises-là. Donc ça veut dire tout simplement que ces entreprises contemplent une baisse d'attractivité auprès de des personnes qu'elles doivent embaucher pour se maintenir, ou auprès même des salariés, des collaborateurs, collaboratrices de ces entreprises. Et ça peut devenir effectivement très problématique. Et donc, ça veut dire que c'est un levier de pression sur ces entreprises pour changer qui devient tout à fait important. Mais il faut que ça s'organise. Il ne faut pas simplement que les personnes individuellement soient dans cette dynamique-là, mais d'arriver à faire que ça pèse, parce qu'en fait, c'est une problématique qui est transverse à plein de secteurs d'activité. C'est un exemple, mais effectivement, je dirais qu'il faut avoir une vision très clair concernant les leviers d'action qui sont à notre disposition, les vulnérabilités qui sont existantes, pour essayer de travailler sur ces vulnérabilités-là et de peser le plus possible. Donc oui, il faut arriver à ce que l'action soit une action collective, soit une action concertée, et soit une action également stratégique. Et en plus, je pense qu'arriver à ne pas simplement se poser ces questions dont on entend beaucoup parler à un niveau individuel, c'est-à-dire je ne suis pas bien dans mon travail, je ne suis pas bien dans ceci, je ne suis pas bien dans cela, mais d'arriver à fournir un cadre collectif pour peser vraiment dans un rapport de force, c'est effectivement ce vers quoi il faut aller, passer du souci individuel à vraiment une échelle beaucoup plus collective, concertée, stratégique.
Et est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui sont engagées dans des redirections écologiques au sein de leur activité aujourd'hui, qu'il faudrait suivre ou regarder en comme modèle un petit peu?
Alors, je n'ai pas forcément d'exemple de modèle au sens de grandes entreprises qui seraient absolument vertueuses. Par contre, j'ai des exemples de chantiers pour tout un ensemble d'entreprises qui aujourd'hui, en fait, très clairement, se posent ces questions, que ce soit des assureurs, que ce soit des entreprises dans le domaine de l'urbanisme, de l'immobilier, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, que à partir du moment où on contemple des questions d'arrêt de la construction, forcément, il faut opérer des bascules très importantes. Donc, je dirais que c'est plutôt par secteur, c'est plutôt par chantier qui sont ouverts. Je dirais pas que j'ai une entreprise dont je pourrais dire que voilà, le modèle qu'elle incarne aujourd'hui est le modèle vertueux que d'autres devraient suivre. Par contre, que des entreprises se posent des questions, pour parler d'elles, hein, parce qu'il y a aussi des collectivités, des territoires, etc. On n'est pas que sur des entreprises, mais des entreprises qui se posent des questions vraiment très radicales de nécessité de faire basculer leur modèle de fonctionnement et qui ne sachent pas le faire aujourd'hui, oui. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, En disant cela, je ne dis pas qu'on se cale sur le tempo des entreprises. Attention, hein, c'est pas du tout le cas. Par contre, on se cale sur le tempo des dynamiques qui imposent ce genre de transformation aux entreprises, ce qui est très différent. Parce que les dynamiques, elles, sont ni capitalistiques, ni managériales, ni ceci, ni cela. Elles sont d'une autre nature. Et on voit, par contre, que des entreprises contemplent le fait qu'elles vont devoir s'adapter et basculer vers des régimes de fonctionnement tout à fait différents. Et c'est ça, effectivement, qu'il faut arriver à prendre en charge. Il y a aussi un enjeu, je dirais, qui est important, qui est de dire que ce n'est pas forcément l'action qui doit primer immédiatement pour un certain nombre d'organisations, dans la mesure où, si elles agissent aujourd'hui en fonction des axiomes qui les définissent actuellement, elles vont forcément faire du greenwashing. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas taillées pour agir à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Donc déjà, arriver à un plan stratégique, visualiser, conscientiser ces bifurcations, ces redirections qui vont s'imposer, qui s'imposent en fait d'ores et déjà, ça peut être la première étape, de créer ce que j'appelle moi des bulles stratégiques pour qu'on soit capable au sein de l'organisation de verbaliser en fait tout simplement ces perspectives. Et après, effectivement, de faire en sorte que la stratégie se cale sur ces changements inévitables qui vont advenir. Donc ça peut être une première marche qui n'est pas forcément visible, mais voilà, déjà, on arrive à trouver des interlocuteurs qui sont un petit peu dans cette dynamique-là, qui n'ont pas forcément ensuite les moyens ou l'outillage pour justement être à la hauteur des enjeux, et c'est là où on peut intervenir, c'est là où on intervient aussi avec nos étudiants. Souvent en plaisantant, je dis on est un petit peu l'agence tout risque, vous savez, ça c'est une référence de boomer, je ne sais pas si les gens de 20 ans comprendront encore cette référence, mais je ne suis pas tout à fait un boomer, il ne faut pas exagérer, mais le générique de l'agence touriste, c'était la dernière chance au dernier moment. Ben voilà, on y est.
Merci beaucoup Alexandre Monin, et bonne chance pour la suite, et à bientôt.
Merci infiniment.